Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit.
Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
On y va ? On déballe ?
Il n'y a jamais de loi favorable parce qu'il faut toujours au moins sauver l'honneur de la pensée, de la politique, et que donc, même quand tout est perdu, l'honneur n'est jamais perdu, qu'il y a donc de ce point de vue-là toujours des raisons de tenir bon.
Intellectuel et sans pouvoir, et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. But I would say not thinking and not et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Bouvier était un homme qui participait tout à fait aux débats et aux affrontements du monde.
Bienvenue dans À plusieurs voix, le podcast de la revue Esprit qui fait dialoguer ses textes d'hier avec ses auteurs et autrices d'aujourd'hui, pour une conversation au présent sur la vie des idées. Dans cet épisode, Guillaume Leblanc, philosophe, choisit une table ronde avec Michel Foucault, publié en 1972, et nous parle de travail social, de contrôle et d'exclusion.
Bonjour. Je cherche le numéro de la revue Esprit consacrée au travail social de 1972, et je crois qu'il est par là, si je ne me trompe pas. Ah, ça a l'air de ressembler à ça. Voilà. Esprit, nouvelle série. Pourquoi le travail social ? Avril-mai 1972, il y a cette fameuse table ronde qui m'intéresse énormément.
Les sociétés capitalistes, et jusqu'à présent également les sociétés qui se disent non capitalistes, sont tout de même des sociétés enfermantes. Si on classait les sociétés selon la manière dont elles se débarrassent, non pas de leur mort, mais de leur vivant, on aurait une classification en société massacrante ou société à meurtre rituel, société à exil, société à réparation, société à enfermement. Cela me paraît être les quatre grands types. Que la société capitaliste soit une société à enfermement, je crois que c'est un constat que l'on a vraiment du mal à expliquer. Pourquoi faut-il en effet que ce soit une société enfermante? Cette société où la force de travail se vend. L'oisiveté, le vagabondage, les migrations de ceux qui vont chercher de meilleurs salaires ailleurs, tout cela entraîne le quadrillage de cette masse, la possibilité de la remettre sur le marché de l'emploi. Tout cela est inscrit dans la pratique même de l'enfermement.
Je voudrais présenter la table ronde sur le travail social de la revue Esprit, dans le dossier d'avril-mai 1972. Il y a la présence de Michel Foucault, philosophe, de Jacques Donzelot, sociologue, de Virilio, de Philippe Meyer sur la science de l'éducation, du directeur de la revue Esprit, d'Aubenac. Et au fond, la question qui agite cette table ronde, c'est celle de c'est quoi le travail social ? À quoi ça sert ? Pourquoi d'un seul coup des travailleurs sociaux sont-ils apparus presque comme des champignons après l'orage, puisque la table ronde commence par mettre en avant le fait qu'en quelques années, je crois, on a un doublement du nombre de travailleurs sociaux, on est passé de 35 000 à 70 000. Comment comprendre le sens ? Le travailleur social est-il là pour remettre les individus dans la norme qui les a malmenés par ailleurs ? Ou est-ce qu'il peut au contraire un petit peu desserrer la norme qui a fait souffrir les gens et donc introduire plus de plasticité ? Bref, quel est le statut de ce travailleur non identifié, quel travailleur social ? On est en 1972, donc quelques années après mai 68, après une critique quand même très forte de l'autoritarisme, de la hiérarchie, de l'ordre immuable de la société. Est-ce qu'on peut réinventer la société ? Et là, on est confronté brusquement à l'idée de la réparation. On a désiré réinventer une société et déception, on se contente de mettre des rustines, on répare l'ordre social malmené. Il semble que les travailleurs sociaux soient emportés dans cette espèce de spirale de la rustine, de la réparation. Par ailleurs, je dois dire que dans les années 70, il y a tout un ensemble d'initiatives, en particulier initiées par Michel Foucault, qui sont très importantes. En 1971, on a eu la création du groupe d'information prison avec Jean-Marie Domenach, le directeur de la revue Esprit, justement, et Michel Foucault. Et on voit aussi que l'idée, c'est de faire parler des personnes qui n'ont pas voix au chapitre, faire parler les prisonniers sur leurs propres conditions carcérales, faire parler les travailleurs sociaux sur leur propre métier. Cet entretien commence par une grande enquête extrêmement fouillée à partir d'un questionnaire adressé à plus de 200 travailleurs sociaux, d'où il s'agit justement d'essayer de saisir la condition du travailleur social. Cette table ronde s'organise autour d'une tentative de définir, d'approcher le travailleur social depuis une réflexion qui est d'abord une réflexion sur l'enfermement. Pourquoi faut-il quelque chose de plus que l'enfermement? Tout le début de la table ronde est consacré à cette réflexion sur l'asile d'un côté et sur la prison de l'autre côté. Et au fond, entre l'asile et la prison, il y a une autre dimension qui surgit, qui est celle justement de la nécessité de réadapter des individus malmenés par les normes. La question n'est plus tant celle de l'enfermement que celle de la possibilité qu'a la société de réadapter des sujets dans un contexte complètement capitalistique où il s'agit justement de produire et donc où on a encore cette dimension de l'employabilité qui est extrêmement importante. Et toute la fin de la table ronde participe de cette réflexion sur la possibilité ou non de remettre des individus dans le milieu social qui les a un peu malmenés.
Quand il y a du travail pour tous et que la mystique de la croissance est admise, l'économique peut être le mode de contrôle général de la société. Avec l'ouverture des frontières, la formation d'entreprises multinationales, l'insistance sur les capacités concurrentielles, le plein emploi n'est absolument plus à la base du credo économique. Non seulement le chômage s'accroît, mais des phénomènes comme l'excédent d'instruction par rapport à ce que demande la production où les innombrables nuisances sociales manifestent une sorte de décollement de l'économique par rapport au social. Donc il faut contrôler ou faire exister le social indépendamment, par des moyens propres, et non pas à travers l'économie qui va de son côté. Entre la production et la population, le fossé se creuse. Un nouveau terrain de débat et de conflit apparaît. L'issue peut être aussi bien plus de contrôle que plus d'autonomie.
L'extrait que l'on vient d'entendre est vraiment le cœur de cette table ronde. Je trouve assez extraordinaire l'hypothèse de départ, qui est celle du décollement du social par rapport à l'économique. On est en 72, à un moment où on a encore le plein emploi, et où en même temps on commence à s'interroger sur le fait que ce plein emploi n'est plus assuré. On a l'impression que l'économique s'emballe. Toujours plus de productivité, toujours plus d'employabilité, en s'emballant en quelque sorte, l'économique laisse de côté la société, le social. Et justement, ce texte est très intéressant parce qu'il pose le statut de ce social-là. Comment faire exister la société indépendamment de son inscription dans l'économique? Si jamais la société cessait d'exister avec cette espèce de frénésie de l'économique, comment la société peut-elle exister par elle-même? Si elle est emportée par l'économique, elle existe en quelque sorte par la pression du travail. Mais si ce n'est plus le cas, il se crée alors une sorte de massification de la marge. Il se crée de plus en plus d'individus qui ne se sentent plus tenus à la société, précisément parce qu'ils ne sont plus tenus par l'économique. Et la question, l'interrogation sur le travail social apparaît exactement à cet endroit. Il s'agit de s'assurer de l'existence du social, soit en assistant les individus, et on a cette première grande définition du travail social comme assistance aux individus, soit en faisant exister le social en quelque sorte, en l'animant. À partir de là, je me dis qu'on a une interrogation sur le mode d'existence de la société. Soit il faut la réparer, l'assister, en insérant des rustines là où ça craque, soit au contraire, il faut l'animer, C'est toute la... le début d'un travail de réflexion sur comment animer les quartiers, les banlieues, les grands ensembles urbains, etc. Et au fond, le travailleur social, c'est un assistant ou un animateur. Dans tous ces cas de figure, je trouve ça extrêmement pertinent de reposer la question, justement, de la possibilité ou non de considérer l'autonomie de ce travail social. Toute la fin du texte est consacrée à cette question de l'autonomie. Est-ce que le travail social est au service de l'autonomie de l'individu ou est-ce qu'il est une prothèse supplémentaire qui vient rendre l'individu dépendant de ce travail social? À ce titre, effectivement, il y a une très belle réflexion de Paul Virilio dans la table ronde lorsqu'il dit ceci, « Nous ne pouvons plus nous animer et nous créer nous-mêmes. On fait comme si la société ne se créait pas, était traité de l'extérieur. » Et ça, je trouve que c'est un point extrêmement intéressant. Est-ce qu'on peut arriver à créer une auto-institution du social sans une médecine du corps social? On voit apparaître cette espèce de soupçon que le travail social est une orthopédie du corps social, une remise dans la norme, une façon peut-être aussi d'écarter une créativité interne qui serait celle de ces individus. On peut penser aussi à l'institution imaginaire de la société de Castoriadis, l'idée d'une créativité du social, qui bute ici sur une sorte de normalisation qui serait justement endossée par le travailleur social. Au fond, nous sommes dans une société dans laquelle les rapports de pouvoir sont partout. On est dans une société, au fond, disciplinaire, où il s'agit de surveiller et de corriger, c'est-à-dire soit de punir, soit de pédagogiser, comme il l'est expliqué dans la table ronde. Et dans ce contexte-là, effectivement, on reproche d'une certaine façon au travailleur social d'exercer une fonction parapolicière de surveillance du corps social. Et je crois que c'est le premier moment vraiment dans l'histoire du traitement social où la question de l'intervention sociale qui a pour but de soulager l'individu, est doublé d'un soupçon sur sa possible mise au service d'un appareil policier disciplinaire général. L'un des fils rouges de cet entretien, c'est cette relation un peu instable entre le judiciaire et le clinique. Où situer le travail social? Est-ce qu'il faut le situer comme un complément de l'ordre judiciaire? Ou est-ce qu'il faut voir en lui l'émergence d'une fonction psy? Foucault, un peu plus tard dans les cours au Collège de France, dira que la fonction psy est partout, elle a tout envahi. Comme si, au fond, pour appliquer l'ordre judiciaire, pour enfermer les individus, par exemple, il fallait doubler cet enfermement d'une justification psychologique. Et on a l'impression, effectivement, à lire cette table ronde, que cette question de la justification psychologique, elle est devenue centrale pour les individus qui sont malmenés dans le travail. La question de la table ronde, c'est ça. Pourquoi l'enfermement n'est-il pas suffisant? S'il y a du travail social, c'est donc que enfermer ce qui s'était avéré nécessaire dans l'ordre capitalistique n'a pas réussi à tenir ses promesses, puisqu'on a plein d'individus qui ne sont pas enfermés, qui sont à l'air libre et qui se trouvent à l'état de marginalité, etc., et qu'il va falloir un petit peu retraiter.
Parce qu'au fond, ce dont le capitalisme a peur, à tort ou à raison, depuis 89, depuis 48, depuis 70, c'est de la sédition, de l'émeute. Les gars qui descendent dans la rue avec leurs couteaux et leurs fusils, qui sont prêts à l'action directe et violente. La bourgeoisie a été hantée par cette vision et elle veut signifier au prolétariat que ceci n'est plus possible. Ces gens qui sont prêts à servir de fer de lance à vos séditions, il n'est pas possible dans votre propre intérêt que vous fassiez alliance avec eux. Toute cette population mobile, en effet, sans cesse prête à descendre dans la rue, à faire des émeutes, ces gens-là ont été en quelque sorte exaltés à titre d'exemple négatif par le système pénal. Et toute la dévalorisation juridique et morale qu'on a fait de la violence, du vol, toute cette éducation morale que l'instituteur faisait en termes positifs auprès du prolétariat, la justice le fait dans des termes négatifs. C'est ainsi que la coupure a été sans cesse reproduite et réintroduite entre le prolétariat et le monde non prolétarisé, parce qu'on pensait que le contact entre l'un et l'autre était un dangereux ferment d'émeute.
Pour moi, c'est un texte très, très important parce que c'est cette attention à tout ce qui peut déraper dans une vie qui me touche énormément. C'est-à-dire, au fond, une vie ordinaire, une vie minuscule, c'est une vie qui, dont on ne retient pas l'attention et qui rentre comme ça dans un faisceau de lumière à partir du moment où du pouvoir s'abat sur elle. C'est le très beau texte de Foucault sur la vie des hommes infâmes. Ça me touche énormément. Parce que justement, je ressens une affinité extrême vis-à-vis à l'égard de ce qui apparaît pudiquement dans ce texte comme les marginaux, des gens qui ne sont pas dans la norme, qui sont justement à côté. Ce texte me semble très important parce que il souligne la fonction centrale du soin, du prendre soin. Mais sur une base qui est complètement crade, le soin ici social, le soin apporté à des individus qui sont en souffrance est vu, conçu comme une fonction policière. Donc on est vraiment dans une sorte de raison sociale impure. Et je pense qu'en même temps, ça témoigne d'un premier âge de la problématisation du travail social. Sans doute, ce premier âge, c'est celui de la marginalité. Et il faudrait, si on voulait rapidement esquisser une histoire du travail social, s'interroger sur un deuxième moment des périodes de chômage, non plus la marge, mais l'exclusion, donc dans les années 80. Aujourd'hui, je crois que nous sommes dans un troisième âge qui n'est plus tant celui de l'exclusion, mais qui est celui que j'appellerais de la crise. Et la crise, c'est la crise sociale, mais c'est aussi la crise sanitaire que nous traversons et où on voit complètement combien la fonction du soin, du prendre soin, doit être repensée à partir d'un référentiel philosophique qui est complètement nouveau, qui est celui de l'individu dépendant, vulnérable. On est encore là dans une promotion de l'individu souverain. Mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans des relations, que nous n'existons que par des relations de soins qui peuvent se transformer en relations de violence. Donc je dirais que ce qu'il y a de très actuel dans ce texte, c'est justement cette émergence, involontaire presque, d'une philosophie du soin, d'une philosophie du prendre soin, d'une forme d'âge premier et pionnier d'un care qui n'a pas encore été pensé en tant que tel. Les asociaux d'aujourd'hui, ce sont les individus privés de nation, les migrants, les demandeurs de refuge, ceux que l'on essaie de rendre invisibles, ceux pour qui se reconstituent malheureusement des archipels carcéraux avec une nouvelle fonction de l'enfermement à l'extérieur de la prison, dans des centres de rétention, etc. Mais peut-être que la grande panique d'aujourd'hui, c'est que les asociaux, c'est tout le monde. Tout le monde est potentiellement un asocial ou un antisocial. Tout le monde a envie, je crois, de se casser d'un système qui ne parvient plus à le satisfaire, justement. C'est dire que la marge, elle a en quelque sorte embrasé complètement, en tout cas elle a brûlé ce centre de contrôle. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la période actuelle, c'est la nécessité justement de repenser la créativité dévastatrice des marges par rapport à cette espèce de centre de commandement et de contrôle qu'était le pouvoir. Comprendre ce monde qui vient, c'est justement peut-être essayer de renverser complètement les rapports entre soins et production, entre justement ce qu'on appelait les premiers de cordée et ce qu'on appelle les premiers de corvée. Aujourd'hui, on voit bien dans la crise actuelle que les premiers de corvée, entre guillemets, sont le centre à partir duquel quelque chose peut tenir. À quoi tenons-nous, justement? Nous tenons parce que des gens tiennent à nous, produisent des relations de soins. Et donc, il y a toute une utopie du soin qui est en train de se développer, que ce soit dans des perspectives écoféministes de soins à l'égard aussi de la nature, que ce soit aussi dans des perspectives plus sociales à l'égard d'un prendre soin général, contre les formes de précarité extrêmement violentes que le néolibéralisme produit et ne cesse de produire.
Vous pouvez retrouver ce texte sur notre site internet esprit.presse.fr. C'était À plusieurs voix, un podcast de la revue Esprit, écrit et préparé par Anne Dugin et Rémi Baille, réalisé par Louise André. Lecture, Rémi Baille. Musique originale, Valentin Fernandez. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.